BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui avec Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, on va s'intéresser au palmarès Best Brand. C'était la toute première édition en France cette semaine. Alain Roussel, président de Service Plan France, sera avec nous pour en parler. Simon Tenenbaum décryptera pour nous cet avis de l'autorité de la concurrence rendu cette semaine qui s'interroge sur la position écrasante de Google et de Facebook dans la pub en ligne et qui menace donc de les sanctionner à l'avenir. On s'intéressera aussi au marketing d'influence avec Cyril Attias, fondateur et PDG de l'agence des médias sociaux.com et Myriam Palomba, directrice de la rédaction du tout nouveau magazine WeBuzz. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Alexia Neveu, chargée de communication B2B au Bon Coin, qui s'est engagée sur le rallye Aïcha des Gazelles et qui en a fait un vecteur de communication au Bon Coin à la fois en interne et en externe. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et cette semaine, comme chaque semaine, je retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Alors, l'actu de la semaine, c'était le CSA qui a dévoilé à son tour sa charte pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans la pub. Marie Vallogne était sur place.
Les initiatives se multiplient dans la publicité pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Quelques semaines après le lancement du programme FAIR par l'Union des annonceurs, c'est au tour du CSA de lancer une charte. Et les acteurs du secteur l'ont signée. Ils s'engagent à rééquilibrer les rôles tenus par les hommes et les femmes dans la publicité. Jean-Luc Chétrit, président de l'UDA.
Non seulement c'est utile pour dans une démarche sociétale, mais c'est efficace. C'est-à-dire que les marques qui vraiment font cet effort de représenter la diversité de la société, de moins représenter les stéréotypes, vendent plus, sont plus efficaces que les autres.
Pour les mauvais élèves, la charte ne prévoit pas de sanctions, mais un rendez-vous annuel pour dresser le bilan des progrès accomplis, comme le rappelle Sylvie Pierre-Brosselette, membre du CSA en charge du droit des femmes.
Cette façon de faire où publiquement on fait le bilan chaque année, c'est aussi efficace qu'une sanction, parce que ceux qui n'auront pas progressé, vous savez, dans la publicité, on aime bien avoir une bonne réputation, on n'aime pas être le dernier élève.
Et en cas de publicité jugée excessivement sexiste, le CSA garde son pouvoir classique d'intervention.
Voilà, et puis alors moi je voulais vous faire part d'un truc. Il m'est arrivé un truc ce matin. Je vais vous raconter les coulisses de cette rédaction. Incroyable. En studio avec l'équipe de la matinale, on a ri à une pub radio. Ça faisait très longtemps que ça nous était pas arrivé, c'est mon coup de cœur de la semaine.
Bon, on fait quoi pour le divorce?
Bah, je garde la maison. Et la voiture?
Pas question, pas l'Apollo.
Bah, c'est ma voiture.
Alors je veux plus divorcer.
Thomas, je t'en prie.
Mais... je t'aime.
Thomas.
Quoi? Si, je t'aime, je te re-aime.
Oh là là.
Non, mais ça arrive tout le temps, ces trucs-là. Allô? Mon amour?
Quand on a une Volkswagen, on a une Volkswagen.
Voilà, c'est la pub pour la Polo de Volkswagen. Frédéric, je trouve que ça redonne un peu ces lettres de noblesse au genre qui me paraît quand même très délaissé en matière de créativité. La radio, c'est le parent pauvre de la pub, en fait, Frédéric.
Oui, il faut dire les choses, malheureusement, oui, je pense, parce que d'abord, c'est un exercice qui est quand même souvent abîmé par les mentions obligatoires qui gâchent quand même une bonne partie du plaisir. Et puis, il faut bien dire que pour faire une bonne pub radio, il faut des bons rédacteurs.
Il y en a plus, ça, aujourd'hui?
Il y en a plus beaucoup. Et puis, les rédacteurs, ils préfèrent travailler sur des trucs un peu plus brillants. Et donc, la télé, le web, etc. Et c'est, ouais, c'est vrai que la radio, c'est un peu dur, là.
On va réhabiliter la pub radio.
Absolument, on va le faire.
Allez, on tout de suite l'invité de la semaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
L'invité de la semaine, Alain Roussel, président de Service Plan France. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette semaine s'est tenue la première édition de Best Brands en France, initiative donc de Service Plan et de l'Institut GFK, qui récompense chaque année plusieurs pays d'Europe, en tout cas jusqu'à présent pas la France, mais désormais la France aussi, les marques les plus performantes. Alors avant d'aller sur le palmarès, moi je voudrais savoir comment est-ce qu'on mesure la performance des marques?
Alors, ça part d'une idée très simple, qui est la performance des marques n'est pas que commerciale. Elle l'est aussi, mais elle est d'abord dans la part d'esprit que les marques ont dans chacun d'entre nous, dans la tête de chacun d'entre nous. Et donc, on appelle ça the share of soul, c'est-à-dire qu'en gros, les marques pour exister, pour qu'on les aime plus, qu'on les préfère, qu'on les consomme plus souvent, qu'on y mette plus de valeur, doivent avoir une relation privilégiée dans la tête de leur cible, de leurs consommateurs, autant qu'elles ont une relation share of wallet économique dans, on va dire, notre part, la part de marché, on va dire, de notre portefeuille.
Et comment ça se mesure tout ça ?
Alors ça se mesure à travers plusieurs choses. La première chose, c'est un ensemble d'interviews. Donc là, il s'agit de 3000 interviews auprès de 3000 consommateurs, hommes, femmes, représentatifs de la population française de plus de 15 ans, auprès de pour 200 marques sur 21 catégories, on va dire. Et dans ces questions, il y a un certain nombre de questions sur l'utilité de la marque au quotidien, la relation qu'elle a avec nous, le regard qu'elle peut avoir sur nous, le côté serviciel, l'attachement qu'on peut avoir, l'engagement qu'on peut avoir. Donc il y a, on va dire, une trentaine de questions qui, à un moment donné, sont orientées vers, finalement, un score global de chez Off Soul, sur le fait qu'on peut mesurer l'attachement que les Français ont avec cette marque. Parallèlement à ça, pour certaines catégories, on a en plus des données un peu plus froides, on va dire, qui sont la part de marché, la capitalisation, l'évolution de la part de marché, la valeur perçue financière, j'entends. Et on pondère sur certaines catégories, notamment sur le product brand, le best product brand, on pondère les deux éléments pour avoir finalement la meilleure performance.
Frédéric.
Alors quand même, il y a quelque chose qui est frappant dans ce palmarès, c'est qu'il n'y a que des marques techno.
Oui.
Qui arrive en tête, Samsung, Amazon, Google, ça veut dire que ça y est, il y a plus de les marques qui plaisent aux gens, qui semblent être proches d'eux. C'est plus Nike, c'est même pas des marques de food, de nourriture.
C'est pas trop des marques françaises non plus, accessoirement.
C'est pas si vrai que ça. À nouveau, c'est là, on prend les premiers.
Oui, on prend les premiers.
À nouveau, le vrai sujet, c'est de se dire que dans le classement, il y a déjà un top 10 qui est très très difficile en termes d'accès, on va dire, parce que c'est vraiment le haut du panier. Ouais. Dans ces top 10-là, il y a des marques, effectivement, du monde digital, des marques techno, mais aussi des marques de notre vie quotidienne, alimentaire, fashion, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, contrairement à l'Allemagne, par exemple, ou pour la cible, alors c'est du franglais tout ça, mais quand on parle de best millennials brand, donc la marque qui paie le plus aux cibles plus jeunes, en Allemagne, c'est Nike cette année.
D'accord.
Et les marques comme Samsung ou Amazon ou Google sont derrière. En France,
c'est le contraire.
C'est-à-dire que là, on a Google qui est pour nous tous un vrai outil de tous les jours, etc.
Suivi par Facebook et Netflix.
Voilà, il y a Netflix, Facebook, Snapchat. Alors dans le désordre, parce que j'ai plus l'ordre exact, mais enfin les quatre sur les quatre
mais
premiers.
Mais d'ailleurs, le côté un peu surprenant de la chose, c'est que ce soit, enfin, si je puis me permettre, moi ça m'a surpris, c'est que Google arrive en tête de chez les jeunes, les 25-34, les 15-34, les millennials, devant Netflix par
Absolument.
Exemple.
Absolument. Et comment, alors c'est intéressant parce que dans le détail, alors après on va pas rentrer dans tout le détail, mais en fait Google non seulement est perçu par les plus jeunes comme étant d'une utilité quotidienne très proche. Évidemment, on le sait. C'est-à-dire que c'est très utile, c'est au service, la réponse est immédiate. Mais on s'aperçoit que sur les enjeux de réputation, d'aspect international et d'engagement, de relations de proximité, il arrive devant les trois autres marques, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ouais. Ce classement n'est pas le même dans les autres pays du monde. Alors, il n'est évidemment pas le même en Chine, parce que
ouais,
il n'a pas la même position,
logique,
de toute façon, c'est pourquoi.
Ouais.
Mais il n'est pas du tout le même en Allemagne, par exemple. Hein, même s'il est en top 10. Hein, c'est pas... Mais quand même, la relation de proximité psychologique de Google par rapport à ses cibles est plus forte en France.
Et voilà. Un mot quand même de Samsung. Pourquoi ils arrivent en tête du Best Product Brand ?
Alors, Samsung, dans la relation qu'il a avec les cibles, a une relation très proche aussi, au sens de les produits faits par Samsung sont vraiment dédiés à ce dont j'ai besoin, sachant que la partie de Samsung dont on parle est la partie vidéo et téléphonie,
oui,
essentiellement. On voit bien que tous les produits Samsung en téléphonie sont de plus en plus performants. Ils représentent d'ailleurs une majorité des achats des smartphones aujourd'hui en France et dans le monde. Donc la relation à l'outil lui-même est très valorisée, puisque notamment pour les cibles plus jeunes, mais pas que pour nous tous, on a un prolongement de notre vie intime là,
dans le téléphone.
Avec le téléphone.
Ouais.
Donc, il y a marqué Samsung dessus. C'est utile, ça rend des services, la marque est proche. Elle fait des très belles communications.
C'est vrai.
Ben ouais. Hein. Elle a réussi à surpasser son problème de crise à un moment donné sur un de ses produits, hein, je vous rappelle.
Avec
vraiment de manière très, très efficace, on va dire. Et donc, Samsung, assez naturellement, par la performance, dans sa proximité mentale, dans son utilité, dans son service de tous les jours, mais aussi par sa performance économique, pour le coup, parce que c'est Best Product Brand, a été très, très fortement valorisé, et il est assez nettement en tête.
Merci Alain Roussel, président de Service Plan France. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition.
Absolument.
Merci beaucoup.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Eddocom. L'édito.
C'est avec Simon Tenenbaum cette semaine. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors avec vous cette semaine, on s'intéresse à une info assez importante. La position écrasante, je cite, de Google et Facebook dans la pub en ligne qui peut-être sera bientôt attaquée par le gendarme français de la concurrence.
Oui, l'autorité de la concurrence qui a rendu cette semaine son avis après une longue enquête sur le secteur de la pub en ligne et effectivement qui arrive à ce constat de la position écrasante de Google et Facebook sur le marché de la pub en ligne. Bon, c'est pas un constat qui va surprendre grand monde. On sait que Google et Facebook captent un peu moins de 80% du marché de la pub en ligne en France. Mais ça reste une étape importante parce que ça vient de l'autorité de la concurrence et son avis est en fait une base pour ensuite mener des enquêtes, prononcer des sanctions et faire éventuellement changer les choses. Alors attention, dans son avis, le gendarme de la concurrence a clairement des préoccupations, mais pour l'instant pas d'accusation formelle surtout envers Google et Facebook. La position dominante est claire, mais ensuite il faut prouver qu'il y a abus de cette position dominante. Ouais. Alors, concrètement, de quoi on parle dans le détail? Bien, le problème, c'est évidemment la puissance de ces deux groupes dans la collecte des données des internautes, dans la data, dans leur capacité de ciblage, leur popularité, leur poids, qui pourrait leur permettre d'imposer leurs conditions au reste du secteur, imposer des prix, obliger d'utiliser tel ou tel outil publicitaire, interdire de passer par d'autres outils, refuser de communiquer des données à des tiers. D'autant que Google et Facebook affichent à la fois des publicités sur les plateformes, ça on le sait, mais développent aussi leurs propres outils publicitaires, une intégration verticale qui inquiète beaucoup l'autorité de la concurrence. Et puis, plus globalement, le gendarme soulève aussi le problème de l'opacité de la pub en ligne, avec toute cette multiplication des intermédiaires dans le ciblage, dans les enchères en ligne. Là, d'autres groupes que Google et Facebook pourraient être concernés. Et pour l'autorité, ce vaste manque de transparence pourrait même cacher des pratiques frauduleuses. C'est évidemment une critique qu'on entend très souvent d'un certain nombre d'acteurs du secteur, et notamment les annonceurs publicitaires.
Ouais, mais alors, qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Parce que l'autorité de la concurrence n'est pas forcément hyper rapide.
Oui, c'est vrai que ça pourrait prendre à peu près 2 ans avant qu'il y ait des actions concrètes, que les enquêtes se fassent. Mais l'autorité de la concurrence a un vrai pouvoir de sanction très important. Et il ne faut pas aussi oublier que son analyse intervient dans un contexte bien plus global d'attaques un peu groupées contre Google et Facebook. On a le secteur qui s'organise avec les annonceurs, évidemment, qui tentent d'imposer par leur puissance financière plus de transparence. Et ça a déjà obtenu des résultats. On a dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, l'office anticartel allemand qui lui a déjà ouvert une enquête pour abus de position dominante contre Facebook. On a ce qui se passe au niveau européen avec Google qui est en ce moment visé par une enquête de l'Europe pour abus de position dominante sur ses publicités contextuelles. Voilà un vrai tir groupé. Et avec tout ça, on peut quand même imaginer qu'il va y avoir une forme d'assainissement de ce secteur de la pub en ligne. Mais en fait, le vrai défi, le vrai problème, le secteur peut s'assainir, mais est-ce qu'il y aura des concurrents face à Google et Facebook? C'est ça la question. Est-ce que le reste des sites internet vont pouvoir exister à côté de ces deux géants sur le marché de la pub? On voit qu'il y a ces initiatives, ces regroupements, ces alliances dans la data, Gravity, etc., qui veulent être des contrepoids à Google et Facebook. Et toute la question, c'est est-ce qu'avec l'aide de ces autorités de la concurrence, de cette régulation, est-ce que ces initiatives vont réussir à fonctionner?
Merci Simon Tenenbaum.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Et cette semaine, on s'intéresse au marketing d'influence avec Cyril Attias, fondateur et PDG de l'agence des médias sociaux.com. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Myriam Palomba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la rédaction d'un nouveau magazine qui s'appelle We Buzz, magazine numéro 1 des stars du web. Alors on verra justement qui sont ces stars du web. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Cyril Attias. C'est quoi le marketing d'influence?
Alors le marketing d'influence a plusieurs noms, mais on va dire qu'on met tout ça sous la ombrelle du marketing d'influence. Aujourd'hui, c'est la réponse aux questions des annonceurs qui est où sont mes cibles et comment je les touche. Et donc, c'est tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, blogueurs, historiquement blogueurs, qui font des conversations ou qui font des contenus et qui diffusent et qui ont leur communauté. Donc, tout ce qui va toucher cet ensemble de personnes qu'on veut toucher, on simplifie un petit peu ça en marketing d'influence pour avoir des leviers d'action sur ces gens-là.
L'une des dernières actions de marketing d'influence, d'ailleurs c'est assez marrant, c'est un réseau social, c'est Vero, qui tout d'un coup, alors qu'il existe depuis 2 ans, s'est mis à devenir le réseau du moment la semaine dernière. Ouais. J'ai passé encore le cas aujourd'hui.
Ça dure très court.
C'est très court. Donc, mais plus sérieusement, en fait... Maintenant, le marketing d'influence, c'est devenu au centre des problématiques des annonceurs. Alors qu'avant, c'était juste quelque chose qu'on ajoutait. Mmh,
tout à fait. Aujourd'hui, c'est devenu un levier marketing. Donc, comme on a les leviers marketing des médias classiques qu'on peut connaître, le marketing d'influence est un levier d'action selon les objectifs qu'on a et les volumétries qu'on a. Et Vero est un bon exemple, puisque effectivement, ça fait 2 ans que ça existe. Et soudainement, tout le monde en a parlé, donc tout le monde s'est inscrit. Donc c'est là où ça devient un levier marketing pour avoir une action, pour le coup là, d'installer un réseau social nouveau et de s'inscrire sur la plateforme.
Alors Myriam Palomba, quelles sont les cibles de ces stars du web? Quelle est la cible de votre magazine qui leur est consacré?
La cible de notre magazine, c'est vraiment une cible collégienne, 10-14 ans. On peut aller jusqu'à 16 ans. On s'est aperçu chez Lagardère qu'en fait, les youtubeurs étaient les stars préférées de ces jeunes. Il y a une énorme consommation du réseau YouTube. Et on s'est dit, il n'y a pas de magazine qui correspond à leur véritable centre d'intérêt. Donc, il était important pour nous de leur offrir quelque chose qui corresponde à ce phénomène, parce que c'est un vrai phénomène.
Et ils lisent des journaux
c'est là vraiment tout le pari du magazine WeBuzz. En même temps, on a à peu près 250 magazines de presse jeune. Ça représente à peu près 2,7 millions de magazines vendus par mois. Donc, il y a quand même un marché. Toute la complexité de WeBuzz, c'est de montrer que derrière l'écran, une fois que l'écran est fermé, vous pouvez continuer l'expérience. Ouais. Grâce à WeBuzz et à la lecture, et ça rassure évidemment les parents et ça leur permet de dire à leurs enfants, voilà, on peut lire aussi, c'est pas parce qu'on regarde YouTube qu'on ne peut pas lire.
Cyril Attias, elles ont vraiment un impact sur la consommation, ces stars?
Oui, enfin aujourd'hui, en tout cas ce qu'on mesure aujourd'hui dans ces sujets-là, c'est que ce sont des personnalités ou des gens ou des individus, youtubeurs ou autres, qui agrègent une audience. Donc selon leur talent, youtubeurs, instagrammeurs, ou do it yourself dans d'autres domaines, elles génèrent une audience. Et on a aujourd'hui des dizaines de milliers, voire des centaines, voire des millions de gens qui suivent ces gens-là. Donc forcément, en tant qu'influenceur, on a une force vis-à-vis des marques ou des produits avec lesquels on peut travailler pour donner un avis sur ce téléphone est meilleur que l'autre. Et si moi je l'ai acheté ou si moi je l'ai essayé, peut-être que vous allez m'écouter et vous allez peut-être l'essayer.
Enfin, truc, c'est quand même qu'on sait maintenant globalement que la plupart d'entre eux sont payés eux-mêmes par les marques.
Oui, mais ça ne change pas leur objectivité du sujet. Puisqu'un influenceur que vous payez pour parler d'un produit dont il n'a pas envie de parler, il ne le fera pas. Parce qu'il aura toujours un produit qui va plus lui plaire qu'un autre.
Il y a quand même quelque chose là sur le premier numéro de WeBuzz, c'est qu'on y voit le célèbre Norman. Et le célèbre Norman, il porte donc une chemise Lacoste, puisqu'il est l'égérie de Lacoste également. Donc là, c'est la totale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le...
C'est pas pour ça qu'on l'a choisi sur WeBuzz, parce qu'on trouvait que la photo était sympathique. Aussi, on interpellait le lecteur. C'était aussi une façon de raccorder par rapport à l'écran, par rapport aux doigts. Enfin, nous, la chemise Lacoste, on s'en fichait royalement.
Oui, sauf que ça fait Ça fait,
mais en même temps,
ça
ils sont
le boulot
cohérents.
De Norman et de Lacoste.
Oui, mais en même temps, ils sont cohérents. Quand je regarde une égérie aujourd'hui, ou une actrice de cinéma, ou un artiste, si vous décodez tout son vestimentaire ou toutes ses actions, on a les mêmes phénomènes. On a des marques qui sont associées à des égéries, à des personnalités, parce qu'elles représentent une ADN de marque. Donc, quand Lacoste, je pense, va chercher Norman, parce que Norman doit correspondre à une cible de conquête ou de communication puis, sur laquelle il va se positionner. Donc, on n'a pas réinventé le sujet.
Il a quand même 10 millions d'abonnés, ce qui est énorme. C'est le deuxième YouTuber français après Cyprien qui en a 11. Donc, il est incontournable.
Et voilà. Et c'est là où on se rend compte que vous et moi, Frédéric, nous sommes deux très vieilles choses.
Merci beaucoup, Cyril Attias, fondateur et PDG de l'agence des médias sociaux.com et Myriam Palamba, directrice de la rédaction de WeBuzz.
BFM Business. Hebdo.com. Comme un chef.
Et pour finir, nous sommes avec Alexia Neveu, chargée de communication B2B au Boncoin. Bonjour Alexia.
Bonjour Aurélie.
Alors, vous vous engagez sur le rallye Aïcha des gazelles, rallye 100% féminin et solidaire qui va se courir à partir de la semaine prochaine au Maroc. Comment est-ce que vous êtes lancée dans cette aventure ?
Alors en fait, c'est très simple. C'est une de mes collègues qui m'a proposé il y a un an de participer à cette aventure. Et on avait déjà eu l'occasion de faire... des événements sportifs ensemble, donc j'ai pas longtemps hésité avant de lui dire que j'étais prête à me lancer dans l'aventure avec elle.
Donc ça fait un an là que vous travaillez sur ce projet.
Exactement, en fait c'est un projet personnel qu'on a présenté au Bon Coin.
Ouais. Pour leur demander. Et donc votre employeur.
Exactement, voilà, on travaille chez le Bon Coin toutes les deux et on leur a demandé du coup de nous suivre dans l'aventure, de nous sponsoriser et ils ont accepté en fait. Et l'idée c'est vraiment d'en faire un projet d'entreprise, donc on a embarqué tous les collaborateurs. Donc il y a un plan de communication interne qui a été lancé pour proposer aux collaborateurs à la fois de participer aussi au rallye grâce à des dons qu'ils vont pouvoir faire à une association pour laquelle on court.
Alors c'est laquelle cette association ?
Alors en fait il y en a une première qui s'appelle Cœur de Gazelle qui est rattachée au rallye en lui-même.
D'accord.
Et une deuxième en fait qui s'appelle La Voix des Femmes et on s'est rapproché en fait de notre site homologue marocain qui s'appelle Avito. Et on a décidé de faire
l'équivalent marocain du Bon Coin.
Exactement. D'accord. Qui appartient au même groupe média norvégien que nous, Schibsted. Et on fait une action en commun avec eux, donc pour cette association, donc on les soutient à travers un don de matériel informatique et on va aussi organiser un événement presse à l'arrivée à Essaouira le 31 mars et auquel on va proposer à l'association en fait de participer et leur remettre le matériel.
Ils ont été faciles à convaincre au Bon Coin ?
Oui, ils ont été faciles à convaincre parce qu'on est arrivé avec toute notre motivation et les raisons pour lesquelles en fait ça pouvait être intéressant pour le Bon Coin de participer parce qu'en fait. On a réussi à les convaincre grâce aux valeurs qui sont partagées et qui sont communes.
Ah oui, alors justement, c'était ma question suivante. Ah. Quelles sont les valeurs communes ? J'imagine qu'il y en a.
Oui, il y en a, exactement. En fait, il y a la première valeur qui est la proximité. La deuxième valeur qui est l'engagement. Donc l'engagement, ça se traduit par l'engagement solidaire. Mm-hmm. Il y a la créativité. En fait, la créativité, c'est une des valeurs du Bon Coin et c'est le fait d'oser. Et donc, c'est vraiment une entreprise qui encourage ses collaborateurs à oser. Et donc, le rallye, c'est exactement ça. Il faut oser s'inscrire et le faire. Et la dernière des valeurs, c'est le pragmatisme. Et en fait, le pragmatisme, c'est l'objectif de la course, de faire le moins de kilomètres possible.
Donc, c'est, l'objectif de la course, c'est de faire le moins de kilomètres possible.
Exactement. En fait, on n'a pas de GPS et on navigue à l'ancienne avec une boussole et une carte. Et on doit rallier des balises toute la journée en faisant le moins de kilomètres possible. Donc c'est toute une stratégie. Le matin, on a juste les coordonnées géographiques des différents points et c'est à nous de définir la trajectoire.
Alors, on a déjà parlé de sponsoring, notamment de sponsoring de voile dans Hebdo.com. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a vu qu'à la fois, c'était vraiment une super OP de communication externe, mais aussi interne. Et finalement, dans ce que vous dites, vous essayez d'embarquer tous vos collaborateurs. Vous avez aussi, j'imagine, un vrai dynamisme, une entreprise qui vous suit en interne.
Exactement. Et c'est ce qui est plutôt agréable, en fait, parce qu'on a vraiment réussi à fédérer tous les collaborateurs autour de ce projet. Et on le sent en fait, nos collègues nous encouragent là à quelques jours du départ. On a vraiment du soutien, des encouragements. Donc ils vont, ce que je vous disais tout à l'heure, participer à travers des dons. Et ils ont aussi la possibilité de nous laisser des petits mots qu'on ouvrira chaque jour pendant le rallye. Donc c'est vraiment toute l'entreprise qui est mobilisée autour de ce projet.
Oui, j'imagine en plus que vous allez faire ça un petit peu en temps réel. Vous avez un compte Instagram, ce
exactement,
genre de choses.
Exactement, oui. Et en fait, l'entreprise a décidé de faire venir une communicante, une de nos collègues, qui nous suivra pendant le rallye et qui relaiera l'aventure, notamment sur le compte Instagram, les Georgettes-le-Boncoin.
Les Georgettes, c'est le nom de votre équipe. C'est un peu comme si vous emmeniez tout le Bon Coin avec vous, en fait.
C'est ça, c'est un clin d'œil.
Merci beaucoup, Alexia Neveu. Je rappelle que vous êtes chargée de communication B2B au Bon Coin. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.